Bonsoir, Anyamkana. Sécurité à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. 6 morts, dont 2 enfants d'une même famille et une trentaine de maisons cambriolées. C'est le bilan d'une attaque des bandits armés survenue la nuit de dimanche à lundi dans la commune annexe. La société civile du Haut-Katanga dénonce cette situation et invite les autorités à mieux sécuriser la population qui se sont livrées à elles-mêmes. Qu'est-ce qui explique cette persistance de l'insécurité à Lubumbashi? Quelles solutions efficaces apporter à cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 5 mai 2020. Participe au débat Maître Jean-Petit Moukena, directeur des cabinets du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Maître Jean-Petit Moukena, bonsoir. Maître Jean-Petit Moukena, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, on a un souci avec sa ligne. Bertin Chose, responsable de la plateforme Gouvernance et Sécurité, une structure de la société civile du Haut-Katanga. Monsieur Chose, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, madame.
Et le professeur Ildefonso Chinyama, criminologue. Il est professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il a réalisé la cartographie policière de la ville de Lubumbashi. Professeur Chinyama, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes nombreux. On me signale que Maître Jean-Petit Moukena est en ligne. Vous m'entendez?
Bonsoir, madame.
Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets du gouvernement de la province du Haut-Katanga. Merci à vos auditeurs de Radio Okapi qui êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Pascal Limbondo depuis Guadolité. Régler la question de l'insécurité à Lubumbashi et dans d'autres villes de la RDC ne trouvera des solutions que lorsqu'on prendra en considération la question sociale, c'est-à-dire la pauvreté et le chômage, appuyé par une justice forte et indépendante. Sinon, rien ne changera. Et d'ailleurs, on risque de voir la situation s'amplifier après cette profonde crise économique engendrée par le Covid-19. Tony Njoko, depuis la ville de Lubumbashi, les bandits armés opèrent en toute quiétude et répartent les éléments de la police et FARDC arrivent toujours quand ceux-ci sont déjà partis. Et pourtant, d'après les autorités, de 22h à 5h du matin, personne ne peut circuler en dehors des forces de l'ordre. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Une vive tension a été observée hier lundi au quartier La Vallée dans la commune annexe de Lubumbashi. Ceci fait suite au meurtre de plusieurs personnes par des bandits armés dont certains étaient en uniforme. Le groupe thématique gouvernance sécuritaire de la société civile dresse un bilan de 6 morts, plusieurs blessés et de nombreuses maisons cambriolées. À ces sujets, l'inspecteur général des FARDC, le général John Numbi, a présidé. Un conseil de sécurité, des stratégies ont été prises pour mettre fin à cette insécurité. Jean Gandou pour les détails.
Les premiers crépitements des balles ont été entendus aux environs de 23h et cela a duré jusqu'à 14h du matin, renseignent certains habitants de ce quartier et quelques autorités contactées. Des bandits en uniforme ont cambriolé plusieurs maisons du quartier La Vallée dans la commune annexe. Une fois entrés dans une des résidences, ils ont abattu un enfant de 11 ans et sa sœur, blessé leur maman et 3 de leurs frères. Dans une autre maison, ces hommes ont violé une femme avant de lui arracher la vie et d'enlever son bébé, rapporte la société civile. Parmi les victimes se trouve aussi un jeune garçon qui serait parmi ceux qui protestaient contre ce énième cas d'insécurité dans ce quartier. Tous les bruits et autres cris de détresse lancés par la population n'ont pas empêché ce malfrat d'opérer dans une trentaine de maisons. Même l'arrivée des forces de sécurité ne les a pas persuadés de mettre fin à leur sale besogne, indique une source sur place. Les échanges de tirs ont été ainsi entendus durant toute la nuit, créant la panique dans la population. Face à ce drame et surtout au silence des autorités, le groupe thématique gouvernance sécuritaire du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga lance ce cri. Bertin Chose.
Il n'y a que quelques endroits où nous avons la sécurité. C'est à la mairie, au gouvernorat, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la 22e. Les autorités, les services de sécurité ne sont pas là pour compter les morts. Par contre, ils doivent faire la prévention.
Nous apprenons que dans la foulée, plusieurs femmes ont été aussi violées. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou pour tous ces détails. Maître Jean Petit Moukena, je rappelle que vous êtes directeur des cabinets du gouverneur de la province du Katanga, énième cadre sécurité à Lubumbashi, des 23h à 4h du matin. Des bandits armés ont opéré dans la commune annexe. Bilan de cette attaque, 6 morts et une trentaine de maisons cambriolées. Qu'est-ce qui explique cette persistance de l'insécurité à Lubumbashi? Persistance parce qu'on a organisé plusieurs émissions sur la situation sécuritaire au Katanga, dans la province du Haut-Katanga. On a l'impression que la situation ne s'améliore pas.
Madame, je vous remercie d'avoir approché ma personne à l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Je suis bien entendu, comme vous l'avez dit, de votre cabinet, de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Haut-Katanga. À la question, Madame, je voudrais tout de suite apporter un petit correctif qui n'engagera pas un débat. C'est vrai qu'il y a eu une situation anormale dans la nuit du dimanche à lundi, comme vous l'avez si bien dit dans votre générique. Mais je vais tout de suite corriger que de ces incidents, il y a eu 4 morts. Alors, 2 morts à Kilobelobe, c'est un jeune homme de 11 ans et une jeune fille de 26 ans. Et puis, au quartier La Vallée, 2 autres morts. Donc, ce n'est pas 6. Je ne suis pas ici en train de couronner les morts, mais je suis justement en train de donner cette précision. On ne se plaît pas de compter les morts, mais il faudrait aussi dire ce qui se passe exactement dans notre province. Mais qu'est-ce qui occasionne cela? C'est ça votre question, madame, si j'ai bien suivi votre question.
C'est la question.
Madame, d'abord, je ne voudrais pas ici qu'on s'attaque à la problématique de dimanche et de lundi, mais plutôt au système qui est le nôtre depuis un certain moment. Ça veut dire notre pays, de manière générale, connaît une difficulté d'emploi. Ok. Ce manque d'emploi pousse beaucoup de jeunes gens dans l'oisivité. Et d'autres s'évertuent justement à aller cambrioler des maisons des paisibles citoyens. Mais à cela, madame, je voudrais dire qu'il y a aussi une question irrégulière des hommes en uniforme, ça veut dire policiers et militaires. C'est ce qui a expliqué même, vous devez le savoir, une mission qui a été diligentée par son Excellence Monsieur le Président de la République il y a exactement 2 semaines. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense et tous les responsables de services de renseignement et de sécurité sont venus dans la province et de leur mission a découlé justement un dénombrement d'irréguliers policiers et militaires. Je voudrais ici dire que à la clôture de cette mission, il y a eu, madame, pour votre gouverne, 325 policiers qui séjournent au jour d'aujourd'hui à Katangulu et 100 qui sont prêts à rejoindre leurs amis qui sont partis. Évidemment, il y a aussi des militaires. Les militaires qui sont partis à Kamina sont à 339. Et il y a...
Mais monsieur le directeur des cabinets...
Je suis en train de répondre à votre question.
Oui, madame. Monsieur, on n'a pas tout le temps, hein, donc il fallait vraiment à l'essentiel. C'est vrai, on a rapatrié des militaires et policiers qui étaient en situation irrégulière. Certains sont venus à Kinshasa, je parle des policiers, et les militaires sont allés, à Kitona ou je sais pas, dans un camp militaire, mais on parle de la situation. Malgré ça, la situation de l'insécurité perdure. Est-ce que vous liez, puisque tout à l'heure vous avez parlé des chômages aussi, des jeunes gens en chômage qui sont prêts à la population, est-ce que vous voulez lier la situation d'insécurité au chômage et aux policiers et militaires qui sont en situation irrégulière dans la province du Haut-Katanga?
Si vous aviez permis de terminer, madame, vous ne m'aurez pas posé la question. Je voulais donc dire que ces hommes qui ont été rapatriés sont des hommes qui tenaient des armes. Alors, lorsque quelqu'un n'a pas une affectation connue, lorsque quelqu'un n'est pas répertorié dans l'armée, mais qui tient, ou dans la police, qui tient une arme, c'est une insécurité. Lorsque il n'y a pas d'emploi, il y a de l'insécurité. Madame, je voudrais dire ici que cette situation n'est pas une situation plaisante, c'est une situation qui concerne au plus haut point l'autorité provinciale qui a mis sur pied un mécanisme d'endiguer l'insécurité dans le Haut-Katanga. Déjà, lorsqu'il est arrivé, madame, vous avez appris que le gouverneur a fait de la sécurité son cheval de bataille. Il a, parce que, en fait, la question de l'insécurité.
Alors, on a perdu le directeur des cabinets. La réalisation va essayer de le retrouver. Bertin Chose, vous êtes responsable de la plateforme gouvernance et sécurité, une structure de la société civile du Haut-Katanga. Votre structure a parlé des 6 morts après cette attaque de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier La Vallée, dans la commune annexe. Le directeur des cabinets, lui, nous parle de 4 morts. Quels sont les vrais chiffres? Monsieur Bertin Chose, je crois que nous l'avons aussi perdu. Professeur Ildefonse Tinyama, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Heureusement. Alors, je rappelle, vous êtes criminologue et professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Vous avez réalisé la cartographie policière de la ville de Lubumbashi. C'est pas la première fois qu'on puisse vous recevoir dans cette émission pour parler justement de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga. Cette situation persiste. Comment on peut l'expliquer, professeur?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances aux familles éprouvées, parmi lesquelles celle d'un étudiant de l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi, qui vient de perdre justement 2 enfants. On comprend qu'on n'est donc pas à l'abri, on traverse 6 ans de turbulences, fait de temps d'incertitude. Pour revenir au débat, on retient que si l'insécurité perdure, allô?
Vous êtes en ligne, professeur.
Oui, je disais, pour revenir au débat, on retient que si l'insécurité perdure, c'est que on lui a pas encore trouvé des remèdes efficaces ou adaptés. Évidemment, le phénomène criminel étant évolutif, les criminels en profitent pour perfectionner davantage leurs approches. Leur mode opératoire se professionnalise davantage, comme quoi les criminels sont souvent en avance et ils trouvent généralement comment contourner les dispositifs mis en place. Alors, ça peut effectivement expliquer. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a toute la question qui est soulevée par les directeurs des cabinets, notamment toute la question au niveau structurel, il y a effectivement un sérieux problème. Et on pourrait, par exemple, retenir au niveau structurel, on a parlé du chômage, mais des agents non suffisamment motivés, les conditions de travail précaires, les effectifs qui ne répondent pas à un ratio raisonnable, les sessions de formation aux idéologies parfois multiples et sporadiques. Bon, il y a aussi des affectations qui ne répondent pas aux critères de compétences, de constituage dans la chaîne de commandement. Il y a autant de choses qui peuvent expliquer ça. Mais c'est aussi un problème managérial et organisationnel. On a parlé ici de la présence des militaires incontrôlés, des policiers. Donc il y a là un problème de mobilité incontrôlée des agents. La question de l'auto-affectation, l'inversion de processus de recrutement, etc. Et au niveau opératoire, il y a toute la question de la routine avec des actions stéréotypées, insuffisance de renseignements, etc. Donc, tout ça, l'étiologie est déjà connue. Je pense qu'on y revient tous les jours. Et donc, je retiens simplement que la réponse à cette insécurité n'est pas encore à la hauteur du phénomène.
Et donc, pour vous, il faudra améliorer les mesures prises par les autorités pour pouvoir maîtriser quand même cette situation qui endeuille beaucoup de gens à Lubumbashi, une situation qui met en insécurité presque toute la population de Lubumbashi.
Tout à fait. Donc, il y a des choses à faire au niveau structurel, au niveau de l'organisation policière elle-même, mais aussi au niveau des opérations. Mais s'il faut prendre la stratégie de réponse à cette insécurité qui a été mise en œuvre ici, c'est que le dispositif est lui-même pas une stratégie basée sur la réactivité, c'est-à-dire centrée sur des interventions. Alors, ça pose quand même un certain problème avec ce dispositif-là, parce que il y a toute la question de réduction de temps d'intervention et il y a toute la question d'accessibilité au centre de coordination. Vous avez toute la question de communication et par exemple l'étude montre, je l'ai dit autrefois, que 30% seulement du public maîtrise les numéros de police, secours, etc. Mais alors, il y a autant d'autres problèmes qui peuvent être réglés par rapport à ce dispositif-là.
Professeur, même les 30%, par exemple, même les 30% qui connaissent le numéro de téléphone de la police qu'il faut composer en cas de problème se plaignent du fait que personne ne répond. Ça sent et personne ne vous répond. Entre-temps, les cambrioleurs, ils continuent leur besogne.
Tout à fait, ça c'est des limites liées à ce dispositif-là, c'est-à-dire la disponibilité de ceux qui doivent coordonner la réception de ces appels. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ces appels passent par un seul opérateur de télécommunication, de communication en fait. Et donc, d'autres appels qui partiraient d'autres opérateurs ne passent généralement pas. Donc, il y a toute la question de savoir quelle est la capacité à réceptionner les appels et dans combien de temps, et qui peut les dispatcher, etc. Donc, à mon avis, le dispositif lui-même est trop centralisé et on a fait un effort de ce qu'on a appelé la décentralisation des CCO, des centres de coordination des opérations, mais en fait, ça n'a pas été une décentralisation au sens propre. C'était tout simplement un prépositionnement des interventions dans les communes, mais la logique de centralité des appels est restée la même.
Merci, et donc, professeur. Merci, on vous garde encore dans cette émission. On me signale que Bertin Chose est en ligne. Vous m'entendez, monsieur Chose?
Merci beaucoup, je suis en ligne.
Est-ce que vous pouvez diminuer, soit vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'on a un retour qui n'est pas très agréable à l'antenne?
Ok, merci. Je vous écoute, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes responsable de la plateforme Gouvernance et Sécurité, une structure de la société civile du Haut-Katanga. Comment vous expliquez cette persistance et l'insécurité à Lubumbashi, vous, société civile?
Je commence par remercier tous les auditeurs de Radio Okapi. Je salue monsieur Jeudi Cap, je salue aussi le prof. Ce sont des gens avec qui nous collaborons très bien. Mais attaquant la question sur l'insécurité, nous disons qu'il y a un véritable problème, madame. Nous pouvons énumérer quelques problèmes que les agents de sécurité rencontrent sur terrain. Et en dehors de ça, il y a des problèmes que la communauté aussi rencontre sur terrain. Moi, je serais un tout petit peu trop pragmatique et pratique plutôt, parce que nous communiquons chaque fois avec la communauté. La communauté nous appelle la nuit pour que nous puissions faire des interventions auprès de la coordination des opérations, pour que la coordination des opérations puisse enfin répondre aux appels ou aux cris lancés par la communauté. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Au moment où il y a des bandits, nous appelons la coordination. La coordination prend tout le temps pour répondre. C'est-à-dire, la population, au moment où elle est en détresse, la coordination peut faire 1h45 pour venir répondre. Et là, il y a des choses qui ne tournent pas. Ça, c'est ce que nous appelons le problème de l'incoordination communicationnelle entre ceux-là qui sont à l'opération et ceux-là qui sont en opération. Donc, ceux qui sont à la communication mettent tout le temps pour essayer d'aider la communauté. Et là, ça ne marche pas. La communauté est dans la détresse. Et nous sommes, nous regardons de l'autre côté au niveau de la deuxième, au niveau de la deuxième réaction que je voulais dire. Donc, nous nous rendons compte que au moment où les équipes qui sont au niveau des communes, comme le professeur l'avait dit, sur les éléments qui sont au niveau de la commune, pour arriver au niveau là où il y a des problèmes de crise de détresse, ils n'arrivent pas à temps. Or, il a été dit que les chefs de quartier devaient intégrer les équipes d'intervention. Les militaires font tout pour faire descendre les chefs de quartier. Ils ne veulent pas que les chefs de quartier puissent intervenir. Et ça, c'est terrible. Et ils disent tout simplement aux chefs de quartier, descendez parce que s'il y aura, des balles, vous serez surpris. Il n'y aura personne qui sera responsable. Et quand ils arrivent, vous les appelez, ils disent non, nous avons eu des problèmes de véhicules, nous sommes perdus, mais ne veulent pas qu'on puisse les guider. Donc il y a la complicité.
Problème de véhicules, on sait qu'il y a le gouvernement provincial de Haut-Katanga avait doté la police des véhicules quand même pour essayer d'assurer la sécurité problème. Dans la ville.
C'est un faux problème parce que le gouvernement a mis les moyens. Le gouvernement a mis les moyens matériels, les moyens financiers. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que les gens ne peuvent pas aider les autres qui sont sur le terrain. Il y a un problème de la citoyenneté responsable. Madame. Donc, le militaire que nous avons et les policiers ne veulent pas aider la communauté. Et ils sont prêts, quand il y a d'autres business, ils sont là et ils travaillent pour le business. Parce que le Lubumbashi ou le Katanga est devenu l'endroit où il faut faire le business.
Vous, société civile, est-ce que vous avez essayé d'approcher les autorités pour en parler, pour essayer de trouver des solutions?
Nous sommes là chaque jour avec les autorités, madame. Il y a ce qui s'est dit avec les autorités. Mais les autorités aussi, ils parlent avec les services de sécurité. Mais entre les autorités qui parlent avec les services de sécurité, ce qu'ils parlent, la politique gouvernementale qu'ils mettent en place, ou la politique opérationnelle, ils ne réalisent pas sur le terrain. Sur le terrain, nous voyons d'autres histoires. C'est là où nous nous plaignons. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, peut-être, c'est la situation de la fois passée qui a soulevé qui a intéressé plus les gens. Mais chaque jour, on entend des morts. Et des cambriolages chaque jour. Donc, il y a la léthargie.
Décidément, on a un problème avec les lignes téléphoniques ce soir. La réalisation me signale que le directeur des cabinets est en ligne. Maître Jean-Petit Moukena, vous êtes là?
Je suis en train de vous suivre, madame.
D'accord, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Shadrach Kalilo depuis la ville de Lubumbashi. La solution doit venir du gouvernement central. Comment expliquez-vous que les bandits opèrent de 23h jusqu'à 4h en tirant des balles sans être inquiétés, pas d'intervention? Comment on peut comprendre que les numéros verts de la police passent mais sans aucune réponse? Comment expliquez-vous que le matin après ces actes, il n'y a même pas eu une réunion d'urgence du gouverneur? Même pas un message de condoléances de la part de nos autorités? Pas même une descente d'un membre du gouvernement? S'il vous plaît, cette personne tuée sans défense, ça fait très mal. Si possible, entre le gouverneur et ce gouvernement, le maire et ses bourgmestres, ainsi que les autorités militaires, quelqu'un doit être suspendu. Le véhicule, le Motorola, le moto, au lieu qu'ils nous aident, au lieu qu'ils nous sécurisent avec, par contre, ce sont devenus des moyens leur permettant à bien voler et tuer.
Monsieur le Dirkab, comment vous répondez à cet auditeur qui appelle depuis le Lubumbashi?
Je comprends bien l'amertume et le souci qu'a l'auditeur de tout à l'heure. Et je voudrais dire, madame, à ce sujet, qu'aucune autorité ne peut régner pour compter les morts. C'est ici le lieu de demander à la population de collaborer avec les autorités. Madame, laissez-moi vous dire que ceux qui font, qui perpètrent ces actes, sont des hommes en armes, mais c'est aussi des civils. Si la population ne collabore pas, si elle ne fait pas confiance en ses autorités, elle va commencer à pleurer. Pourquoi nous disons pleurer? Parce que nous aussi nous pleurons, parce que nous aussi nous subissons les mêmes faits que subissent certains de nos compatriotes. Madame, ceux qui volent, ceux qui pillent et ceux qui violent, ce sont les hommes en armes et les civils.
Lorsque vous dites que la population doit collaborer, elle va collaborer comment, puisque quand elle appelle les numéros verts, personne ne répond?
Madame, le Haut-Katanga a près de 4 millions d'habitants. Si 100 personnes appellent sur un numéro, non seulement qu'il y aura saturation, mais aussi il y aura difficulté de pouvoir répondre à chacun des appels. Mais à cela s'ajoute la géographie, je veux dire la démographie. Nous avons de nouveaux quartiers, nous avons des avenues, nous avons évidemment des avenues qui ne sont pas éclairées, mais nous avons des avenues qui ne sont pas nommées. Ça, c'est le travail que le gouvernement fera, mais pour l'instant, la seule collaboration que nous demandons à la population que nous aimons, que nous chérissons beaucoup, c'est de collaborer. Collaborer signifie que ces voleurs, ces bandits vivent dans nos maisons, ces bandits vivent dans nos quartiers. Nous avons de jeunes gens qui sont oisifs, qui ne font jamais rien, mais qui sont au coin de chaque rue, qui dorment à longueur de journée, et c'est le soir qu'ils sortent. Il faut les dénoncer. C'est une forme de collaboration entre la population et les autorités. Nous avons des gens qui aménagent dans nos quartiers, mais nous devons savoir justement, vous devez dire au chef de quartier...
Décidément, les lignes téléphoniques posent vraiment problème. Est-ce que Monsieur Bertin Chose est en ligne? Oui, on nous signale qu'il est en ligne. Bertin Chose, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient encore une fois de Lubumbashi.
Sako Dipaouni Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je crois que cette situation est due tout simplement à la complicité des autorités sécuritaires qui collaborent avec le groupe des bandits. Et à mon avis, je pense qu'il est normal de procéder au changement de la chaîne de commandement pour mieux nous sécuriser, nous qui vivons ici à Lubumbashi, car nous vivons avec la peur au ventre. Et c'est inadmissible de continuer de mourir de cette façon, au vu des moyens dotés par le gouvernement du Haut-Katanga au service de sécurité en place.
Bertin Chose, changement de la chaîne de commandement, est-ce que ça pourrait être une solution efficace pour essayer d'atténuer ou essayer de mettre fin à cette situation d'insécurité dans la province du Nord, plutôt du Haut-Katanga? Bertin Chose?
Allô?
Monsieur Chose, est-ce que vous êtes en ligne? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Est-ce que vous avez suivi la réaction de cet auditeur qui nous a appelé tout à l'heure de Lubumbashi? Monsieur Chose.
Oui, je vous écoute, madame. Je suis en ligne.
Oui, je disais, est-ce que vous avez suivi la réaction de cet auditeur qui nous a appelé de Lubumbashi, qui demande le changement dans de la chaîne de commandement?
Donc, je crois que la population a raison, parce que c'est la population qui en souffre. C'est la population qui en souffre. Et quand vous regardez très bien, je pense que je vais d'abord compléter les détails. Il n'a pas dit quelque chose. C'est-à-dire que les voleurs sont avec nous dans nos quartiers, sont avec nous partout où nous sommes, sont aussi dans les rangs. Je crois que cet élément, il doit le dire. Les voleurs là que nous cherchons, ils sont aussi dans les rangs. Donc il faut que c'est nous dénonçons, la communauté dénonce qu'il y a des voleurs. Il faut que les éléments qui sont dans les rangs aussi puissent dénoncer. Et ils cachent pourquoi. Les services de renseignement ont failli. Si nous devons tout simplement prendre chaque fois, nous sommes derrière le voleur. Il faut que nous passions le devant, comme le professeur l'avait dit. Donc, il faut que les services de renseignement qui sont dans la police, qui sont dans l'armée, puissent dénoncer les voleurs qui sont dans la police et qui sont dans l'armée. Je crois que c'est clair à ce moment-là. La communauté est fâchée, la communauté se soulève, et la population elle est en train aux autres. Et nous avons, nous devons regarder aussi de l'autre côté. Au moment où la communauté est en train d'essayer d'appeler la police, de dénoncer les criminels, nous nous rendons compte que quand nous nous dénonçons, les services de sécurité ne veulent pas arrêter ces gens-là. Même s'ils les arrêtent, au moins de quelques jours, ils me libèrent. Et ça, ça ne passe pas. Et vous nous demandez ce que nous puissions encore dénoncer, monsieur le Dirkab. C'est compliqué. La population appelle. La population n'a pas confiance à l'armée, n'a pas confiance à la police. Nous devons passer par la sensibilisation d'abord des hommes armés, des hommes de la police, faire l'amélioration des relations, qu'ils comprennent leur mission. Ainsi, nous allons rentrer maintenant du côté de la population. Parce que si les gens qui sont dans les rangs ne comprennent pas leur mission, comment est-ce que nous, au niveau de la population, nous pouvons collaborer avec eux? Parce que les armes qui crépitent là, ce ne sont pas les armes civiles. Hein. Les civils n'ont jamais eu des armes. Et la tenue, c'est pour l'armée et pour la police. Ce sont des tenues qui sont identifiées quand les voleurs viennent. Les armes automatiques. Est-ce qu'un civil peut trouver une arme automatique? Donc je crois que c'est à eux d'aménager leur coordination et leur niveau de sécurité. Ce n'est pas à nous, la communauté. Nous, nous savons que nous avons envoyé nos frères pour nous sécuriser et nos frères ne veulent pas nous faciliter la tâche. Il faut que nous puissions lancer le projet de l'amélioration des relations, commençant par ceux-là qui sont dans le rang. On les enseigne qu'est-ce que leur mission, les réformer, comme la réforme d'abord le dit. Il faut les redynamiser à chaque instant, les réformer pour qu'ils puissent comprendre leur mission sur au niveau de la citoyenneté responsable.
Merci Bertrand Chose. Merci Bertrand Chose. Professeur, Ildefonso Chinyama, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient encore une fois de Lubumbashi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs qui appellent de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Cédric Isaac Tshimbi depuis Lubumbashi. Je pense personnellement que cette situation macabre est l'œuvre des hommes mieux outillés et qui savent bien des itinéraires à trouver nos clients, car de fois, ça se passe non loin des commissariats de la police. Le cas du Bel Air sur l'avenue Bégonias et autres cas en disent plus. L'autre option, c'est l'aspect politique, car le Haut-Katanga est parmi les provinces du Congo dont la police a bénéficié d'outils pouvant l'aider à remédier l'insécurité, notamment l'équipe, l'organisation des CCO et même de la prime. Mais l'insécurité, on le constate, est quasiment permanente et généralisée.
Le professeur Chinyama.
Oui, merci beaucoup. Ce que je comprends, c'est que d'abord, le dispositif qui a été mis en œuvre rencontre beaucoup de dysfonctionnements. Et ce qui manque généralement, c'est des approches d'évaluation. On n'évalue pas les dispositifs pour les améliorer. Alors, chaque fois qu'on s'enlise, on bascule vite vers des théories du complot en recherchant des gens qui sont dans des sabotages partout. Mais alors, tout ce que je comprends aussi, c'est que les forces de sécurité sont elles-mêmes ou elles font elles-mêmes partie du problème. Et pour résoudre cette question, il y a autant de niveaux où la question pouvait être prise en charge. Je parlais de niveaux culturels. Il y a des choses qu'on doit améliorer au niveau des rangs de police. Cette organisation-là demande qu'on lui prête autant d'attention en termes d'amélioration des conditions, de motivation des agents, etc. Ce que je comprends aussi, c'est qu'au niveau organisationnel, la police elle-même ou les forces de sécurité ont un sérieux problème managérial. La gestion des effectifs, la gestion de la mobilité des gens, la gestion logistique des armes, la circulation des armes, etc. Tout ça doit être pris en compte. Mais au niveau aussi opérationnel, il y a toutes les questions liées au renseignement, autant de choses qui doivent être améliorées. Mais
alors le DIRCAP qu'on a suivi tout à l'heure,
il est basé sur des interventions. Or, dans l'approche d'intervention, ce qu'il faut, c'est chercher effectivement à réduire le temps d'intervention. Or, c'est ça justement qui pose problème. Mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres approches? Alors, par exemple, l'étude qu'on vient de réaliser actuellement montre, par exemple, que le dispositif que je considère pour moi basique de police territoriale, c'est-à-dire de sous-commissariat, ce dispositif-là est réparti de manière très déséquilibrée sur la ville. Avec une forte concentration au sud, il y a un problème d'effectif dans ce dispositif-là, et ce dispositif ne participe pas justement de la surveillance des quartiers. Or, à mon avis, quand on considère ce dispositif-là, on regarde par exemple que l'implantation de ce dispositif se fait de manière empirique. La cartographie montre par exemple que 50% de ces sous-commissariats et commissariats sont implantés dans les marchés autour des dépôts, autour des commerces. Et ce dispositif-là ne participe pas de la surveillance des quartiers. Et d'ailleurs, quand l'année est venue, on regarde dans les sous-commissariats et commissariats, on voit que tous ces policiers-là sont plus tournés dans le gardiennage des motos, des véhicules, etc.
Merci, donc, professeur.
Moi, ce dispositif-là devrait être basique, au fait.
Merci, professeur. On me signale que le DIRCAB est à nouveau en ligne. Monsieur le DIRCAB, vous êtes là?
Je suis là, madame.
Alors, comment améliorer ou quelles solutions efficaces apporter pour remédier quand même à la situation, à cette situation d'insécurité, monsieur le DIRCAB?
Merci de la question, madame. Merci aussi de toutes les interventions. Merci aux auditeurs qui sont intéressés par la question de la sécurité dans notre province. Je voudrais dire au professeur que les portes de la province lui sont grandes ouvertes. Et les questions de sécurité, il le sait, il enseigne la sécurité à l'université. Les questions sécuritaires ou les stratégies ne se donnent pas à la radio. Donc les portes de la province lui sont grandes ouvertes. Madame, je voudrais vous dire que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a traité cette question dès le début de son mandat. Mais comment améliorer? Je vous ai dit ici que le gouverneur de province a doté la police. Il a doté l'armée, il a doté les services. Mais le gouverneur de province a aussi fait un transfèrement. Et les gens ont considéré que c'était la blague. Il a pris des prisonniers, mais dangereux, il les a transférés à Anguenga. Mais ça, ce n'est qu'une première vague. Mais il y en aura d'autres. Je voudrais donc ici dire à la population que le patron de la province est avec elle et il est toujours au pas de la population pour réguler la question de la sécurité. Je voudrais vous dire aussi, madame, et dire à nos auditeurs et à mes co-débatteurs que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a signé un arrêté le 10 janvier qui créait une cellule. Cette cellule est attachée, est affiliée au CCO, la cellule de lutte contre la criminalité. C'est toujours en fonction de pouvoir améliorer la situation sécuritaire. Mais je voudrais insister sur un fait, la population doit collaborer. J'ai entendu mon ami Chose dire la population en a marre de la police. Elle va faire confiance à qui? Est-ce que c'est le gouverneur qui va descendre? Le gouverneur descend par la police lorsqu'il s'agit de l'insécurité. Il descend par l'armée lorsqu'il s'agit de l'insécurité. Donc la population doit refaire confiance en sa police et en son armée. Parce que si elle ne fait pas confiance, rien ne va se résoudre.
Mais le fait de voir aussi le gouverneur des provinces descendre sur terrain, présenter des messages, des condoléances, des messages d'encouragement à la population, ça crée une certaine confiance entre la population et les autorités. Mais rien de ça, monsieur le DIRCAB.
Est-ce que ça se fait de manière responsable qu'un papa, à chaque fois qu'il y a un problème, il va encourager? Le papa doit résoudre la question pour ne plus présenter les messages de condoléances.
Décidément, la ligne du DIRCAB pose un sérieux problème. Bertha Anchoz, vous avez suivi les quelques propositions faites par le professeur Tinyama pour essayer de résoudre ce problème d'insécurité. C'est entre autres revoir un peu certaines stratégies mises en place par les autorités provinciales. Entre autres, essayer d'équilibrer un peu dans la ville de Lubumbashi, hein, les sous-commissariats qui existent. Il estime qu'il y en a beaucoup plus dans les marchés que dans les quartiers. Monsieur Chose? Nous l'avons aussi perdu, professeur. Je crois qu'on va continuer avec vous. J'espère que vous êtes là.
Oui, je suis là.
D'accord. Alors, on va continuer avec les solutions. Vous nous avez parlé ici des sous-siates et vous avez dit qu'il y avait un déséquilibre dans la ville de Lubumbashi, des sous-commissariats. On devrait revoir ce problème. Les policiers et militaires sont plus concentrés dans les marchés et les dépôts plutôt que dans les quartiers pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens.
Oui, justement, c'est pour moi un dispositif plus ou moins basique sur lequel on pourrait compter et chercher justement à compter certaines choses. Évidemment, ce n'est pas une panacée, hein. Toutes ces choses-là se testent, s'évaluent, se réévaluent pour voir justement comment on y arrive. Mais ça demande aussi un coût, ça demande des moyens, il faut qu'on s'y mette.
Alors, on va devoir conclure.
J'apprends toute cette rhétorique autour de la population qui doit dénoncer, etc. Mais personne ne me dit si on réfléchit sur des mécanismes réels d'implication communautaire. Est-ce qu'il suffit d'appeler les gens à dénoncer pour que la dénonciation soit effective? Il me semble qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à des mécanismes d'implication communautaire qui permettent justement de trouver des canaux de communication plus ou moins appropriés, adaptés, contextualisés, pour faire participer la communauté à la coproduction de la sécurité.
Merci, mais professeur.
Ça, on se mettra dans une rhétorique tous les jours, mais on réfléchit très peu sur des mécanismes réels qu'il faut mettre en place pour justement engranger cette participation communautaire.
Merci, et professeur Idelfos Tignam. On n'a plus beaucoup de temps. Ça sera votre conclusion. On me signale que Maître Jean Petit est en ligne. Il nous reste une minute. Votre conclusion, monsieur le Dirkab.
Très bien, madame. Donc, je parle de manque d'emploi, je parle de l'exode rural, mais je parle aussi de la pandémie Covid. Plus d'une entreprise a fermé. Nous allons donc avoir de nouveau dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communes, des gens qui n'auront pas de travail. Ça va encore être une insécurité. Je demande donc à la population de rester vigilante, de faire confiance en ses dirigeants, de faire confiance en son gouverneur, mais de rester aussi dans cette considération que personne, en commençant par le gouverneur, tout son gouvernement, ne tire plaisir de ce qui se passe dans notre province. Je demande donc à la population okatangaise de rester une et de rester sensible, mais de collaborer. De collaborer avec les policiers, de collaborer avec les militaires.
Merci, monsieur le Dirkab. C'est la fin de cette émission.